Chapitre 5.
Franchement, Cyrienne, je croyais que tu te dégonflerais.
Johannes traînait un air fatigué dans le minuscule café fréquenté par une poignée d'étudiants de l'ESS. L'épuisement se traduisait chez lui par un affaissement général de sa grande carcasse qui plissait ses vêtements, ses traits, et lui donnait un air encore plus machiavélique que d'habitude.
Il n'avait pas dû dormir beaucoup.
Cyrienne n'avait pas fermé l'œil de la nuit, lui non plus. Dans le clair-obscur matinal du café, quelques silhouettes au regard morne échouaient sur le comptoir, des entrelacs de fumée bleutée au-dessus des têtes malgré l'interdiction totale de fumer, des odeurs entremêlées de tabac, de café et de détergent. Le quartier, habituellement animé, n'était pas encore réveillé. Une altercation opposait un peu plus loin le conducteur d'un camion de livraison et un chauffeur de taxi. Johannes vida sa tasse dans un bruit de siphon.
Tu lui as filé du rohypnol, n'est-ce pas?
Cyrienne acquiesça d'une moue crispée. Le plus difficile avait été de convaincre Aurel de se rendre dans la chambre de l'Allemand, dont elle détestait les manières de rustre.
Tu ne le connais pas, avait argumenté Cyrienne. Tu ne devrais pas te fier aux apparences.
Il nous invite juste à boire un verre, il y aura plein de monde. On s'en ira si on s'emmerde. Aurel avait fini par accepter pour lui faire plaisir. Elle s'était étonnée, en entrant dans la piole bordélique de Johannes, de se retrouver en comité restreint. Deux pelés et une tondue.
Ce n'est pas ce qu'on appelle plein de monde.
Cyrienne lui avait dit que les autres allaient bientôt arriver et lui avait servi un verre de vodka orange dans lequel il avait versé une bonne dose d'un mélange de rohypnol et de MDMA. Le produit n'avait pas tardé à faire son effet. À demi inconsciente, elle s'était allongée sur le lit de Johannes. Elle avait ri comme une démente. Elle avait commencé à se caresser, toute inhibition levée. Elle n'avait pas repoussé l'Allemand lorsqu'il s'était approché d'elle pour l'embrasser. Elle avait répondu à ses avances avec une lascivité, une ardeur que Cyrienne ne lui connaissait pas. Il s'était révolté de tout son être. Il avait failli se jeter sur eux pour les séparer. Puis, il avait pris conscience qu'il se trouvait, en ce moment même, dans l'ultime et douloureux passage qui menait à la confrérie des titans. Et, craignant de tout foutre en l'air, il s'était enfui. Traversant les couloirs déserts et sombres du bâtiment de l'EESS surnommé l'auberge, l'école hébergeait les étudiants qui ne disposaient pas de logement à Paris, des étrangers pour la plupart, il était rentré chez lui à pied, après une longue errance dans les rues balayées par un vent cinglant et une pluie battante. Il s'était couché, tout habillé et mouillé, en rage contre lui-même, harcelé par les remords. L'image de Johannes et d'Aurel enlacés l'avait martelé jusqu'à l'aube. Ce salopard d'Allemand l'avait transformé en salopard. C'était donc ça, la société secrète des titans. Une assemblée de salopards qui se la jouaient futurs maîtres du monde, des minables qui exploitaient le prestige de la confrérie pour assouvir leurs pulsions. Il avait sorti d'un tiroir de la commode le petit pistolet à la crosse nacrée de sa mère. Il avait vérifié qu'il était chargé et failli retourner à l'EESS pour cribler de balles la grande carcasse de Johannes. Aurel également. Elle n'était en rien responsable, mais il ne pourrait plus la regarder en face. Elle lui renverrait inlassablement, comme un miroir sale, sa propre crasse. Il n'avait pas bougé de chez lui. Le pistolet à la main, cuit à l'étouffer par le dépit et la jalousie. La mine satisfaite de Johannes lui faisait regretter d'avoir laissé le flingue chez lui après le coup de fil matinal de l'Allemand.
« Qu'est-ce que tu as fait d'elle ?»«
Elle dort chez moi. Comme tu as eu l'excellente idée d'ajouter du MDMA dans sa mixture, je ne te dis pas la nuit qu'on a... »«
Elle saura que tu l'as baisée quand elle se réveillera. »
Johannes commanda un autre café.
« Évidemment qu'elle le saura. Elle doit le savoir, ou les preuves n'auraient aucune valeur.
Elle devinera qu'elle a été droguée, merde! C'est quoi ton but? Qu'elle me haïsse? » Johannes joua un petit moment avec un sachet de sucre vide.
Un titan, Cyrienne, se place au-dessus de tout. Au-dessus de la morale, au-dessus des lois, au-dessus des sentiments, au-dessus des émotions. Un titan tranche sans pitié les nœuds gordiens, les liens qui l'empêchent de s'élever au-dessus de sa condition.
Je ne vois toujours pas le rapport avec Aurèle.
Elle ne compte pas. Il s'agissait de toi, de mettre à l'épreuve ta résolution. Dans 15 jours, tu l'auras oublié.
On n'a pas le droit d'être amoureux quand on est un titan.
Johan se renversa sur sa chaise et alluma, sans tenir compte des panneaux d'interdiction, d'une de ces longues cigarettes noires qu'il fumait de temps à autre avec une volupté horripilante. Cyrienne remarqua sur son cou une large corolle bleuâtre. Un suçon sans doute. Le dealer qui lui avait vendu le mélange Rohypnol-MDMA lui avait garanti un résultat explosif.
« Y a que des avantages, mec. Les meufs refusent rien et se souviennent de rien. »
Aurèle n'avait apparemment rien refusé à Johannes.
« Bien sûr que si. Rien ni personne ne peut empêcher un être humain de tomber amoureux.
Mais la différence entre le titan et l'homme ordinaire, c'est que le titan place la confrérie au-dessus de tout. Qu'il sacrifiera sans la moindre hésitation celle et ceux qu'il aime si ses frères, sa véritable famille, l'exigent.
La confrérie, Cyrienne, n'est pas un aimable cercle d'anciens de l'EESS où l'on cause du bon vieux temps. C'est un ordre secret, un atome, un noyau autour duquel gravitent, comme des électrons, les titans. Il me revient, à moi, ton parrain, de déterminer si tu peux être l'un de ces électrons, si tu as assez de force en toi pour ne pas mettre en danger la structure. Tu dois être prêt à tout. Ma responsabilité est engagée, tu comprends?
Laisse les chimères sentimentales et familiales aux troupeaux, aux esclaves de ce bon vieux Nietzsche. Combien d'hommes et de femmes ont été détruits par un esprit et un cœur faibles, par la culpabilité, par les remords? Je ne t'ai pas imposé cette dernière épreuve par sadisme.
Sans vouloir t'offenser, des filles comme Aurèle, on peut en baiser autant qu'on en veut.
Tu as réagi comme je l'espérais. Tu l'as sacrifié. Tu es allé par-delà tes sentiments, par-delà la morale. Ta volonté a reflété ta puissance, mon vieux. Nous ne nous sommes pas trompés sur ton compte.
Les paroles de Johannes apaisèrent la colère grondante de Cyrienne. Ses remords s'envolèrent en même temps que les gouttes d'eau des ramures chahutées par les bourrasques. Il lui fallait accepter sa maigre souffrance, explorer ses contrées secrètes et labyrinthiques à la seule lumière de sa volonté. À son réveil, Aurèle prendrait conscience qu'elle avait fait l'objet d'un troc sordide entre Johannes et lui. Elle pleurerait, enragerait, le raillerait de sa vie, l'oublierait, se rabattrait sur un homme à sa mesure, un homme ordinaire. Et tous les deux, lentement, sûrement, se couleraient dans une existence morne et bercée de rancœur. Cyrienne regretterait quelque temps son odeur, sa sensualité décomplexée. Mais il ressortait de l'épreuve régénéré, lavé de ses doutes, plus fort.
« J'espère que tu es libre dans une semaine, » reprit Johannes. « Je viendrai te chercher à 22 heures, à cet endroit. »
Il tendit à Cyrienne un bout de papier sur lequel il avait griffonné une adresse. Il vida sa tasse d'une traite, grimaça, se leva, s'étira et ajouta
« Dans 7 jours, pas la peine d'emmener quoi que ce soit, sauf ton nom d'initié, évidemment. Surtout, ne sois pas en retard. »
L'Allemand sortit du café et s'éloigna dans la grisaille matinale. La confrérie n'attendait pas la fin de l'année pour introniser Cyrienne. Il passa une partie de sa journée à se demander si le statut de titan n'aidait pas les étudiants à réussir leurs examens. Jamais il n'avait vu bûcher Johannes, et l'Allemand était toujours passé en année supérieure avec les félicitations du conseil. Aurèle se présenta à l'appartement de la rue Dauphine en fin d'après-midi. Ses yeux brillaient d'un éclat métallique au milieu d'un visage de papier mâché. Des sons vaguement technoïdes dégoulinaient en grappes de l'étage supérieur. Chaque jour, à la même heure, le fils presque pubère des Maugreliers, ami et locataire des parents de Cyrienne, se croyait obligé de partager ses dernières créations musicales avec les autres occupants de l'immeuble. De temps à autre, crépitaient les protestations électriques de sa mère. Cyrienne ne parvint pas à soutenir le regard perçant d'Aurèle. Il s'effaça pour la laisser entrer. Elle se planta au milieu du vestibule sans retirer son imperméable mouillé et remit un peu d'ordre dans ses cheveux détrempés, avant de laisser éclater sa fureur.
« C'est quoi le plan que vous m'avez fait tous les deux ?
T'étais où cette nuit, merde? Tu te rends compte que je me suis réveillé dans le lit de Johannes? Que j'ai passé la nuit avec Johannes?
Elle lui parut particulièrement désirable dans la lumière ocre de cette fin de journée. La fatigue, la détresse et la colère appuyaient la sensualité de ses traits. Si elle s'était fâchée plus souvent, Cyrianne n'aurait jamais eu le courage de la brader à Johannes. Il aurait continué de se réchauffer à son feu. Les regrets à nouveau s'abattirent sur lui, volés de rapaces au bec et aux cerfs affûtés. Il s'était préparé mentalement à la confrontation. Il avait envisagé toutes les possibilités, de la rupture radicale à la réconciliation sur l'oreiller. Il n'avait pas prévu un tel chavirement des sens et des émotions. Les yeux d'Aurel ne le lâchaient pas, l'empêchaient de se ressaisir.
« Je me suis fait baiser, et je sais pas par qui. Je me souviens de rien. De rien. C'était pas toi en tout cas. J'ai pas reconnu ton odeur. »
Elle écarta son imper, dégrafa deux boutons de son chemisier et dévoila une marque rouge vif en haut de son sein gauche. Des traces de dents, profondes, un double arc de cercle.
« Et puis, t'es pas du genre à faire ça. J'en ai plein d'autres, sur le ventre, sur le dos, sur les fesses. Je voudrais juste savoir ce qui s'est passé, Cyrianne. Savoir quel dégénéré m'a fait ça. Après, je disparaîtrai de ta vie, je te jure. »
Cyrianne recula et s'affala sur le vieux fauteuil en cuir tapi dans un recoin du vestibule.
La franchise, il en était conscient, était la seule issue honorable.
Il lui fallait trancher le nœud gordien selon les mots de Johannes, ne laisser aucune trace, aucun lien derrière lui. Mais il n'était pas du genre à provoquer les conflits. Il avait secrètement espéré que le rohypnol, la drogue de l'oubli, ménagerait la sensibilité d'Aurel et lui épargnerait une pénible confrontation. Johannes en avait décidé autrement.
« Tu t'étais endormi sur le lit. J'ai cru que... Enfin, je suis parti. »
Il se consola en se disant que le courage lui viendrait après son admission dans la confrérie, que son vrai « moi », son « moi » guerrier, glorieux, lui serait alors révélé et supplanterait enfin ce moi chétif, mesquin, qui répondait si mal à ses aspirations profondes. En attendant, il lui fallait se nourrir de ses faiblesses, de ses miettes. Aurel s'approcha du fauteuil et s'accroupit devant lui. La rumeur de la ville et les sons saturés du génie maugrelier junior s'échouaient dans le vestibule plongé peu à peu dans le clair-obscur du jour agonisant.
« On m'a sans doute refilé une saloperie dans ma boisson. »
Je suis allé faire une prise de sang, Cyrianne. J'aurai les résultats dans 2 jours. Tu as intérêt. Intérêt, tu m'entends. À me dire la vérité. »
Il réagit comme tous les faibles en pareille circonstance. Il s'enferra dans ses mensonges. L'esclave de Nietzsche dans toute sa splendeur. Emberlificoté dans sa culpabilité, dans ses remords.
« Puisque je te dis que je suis parti. »
Aurel se releva. Revint se placer au centre du vestibule et, sans quitter Cyrianne des yeux, retira son imper, son chemisier, sa jupe et ses sous-vêtements. Une fois nue, elle tourna sur elle-même avec une lenteur insupportable. Difficile de ne pas voir les plaies profondes qui parsemaient son corps. On aurait dit qu'elle avait été agressée par un chien enragé. Cyrianne se mordit la lèvre inférieure pour s'empêcher de hurler.
« Celui qui m'a fait ça est un dingue !» reprit Aurel, d'une voix vibrante de colère rentrée. « Tu m'as livré à un psychopathe, Cyrianne, un vampire. Dis-moi au moins ce que t'as gagné dans l'affaire. »« C'est quoi cette connerie? Je t'ai livré à personne, putain! À personne !»
Souvent, Cyrianne se demandait pourquoi sa vie lui était tombée dessus, pourquoi il percevait le monde par ses sens et non par les sens d'un autre. En ce moment... Le monde se réduisait à un vestibule plongé dans la pénombre et une conversation avec sa maîtresse au corps splendide et meurtri. Le monde se réduisait pour Aurel, un ancien amant recroquevillé dans un vieux fauteuil en cuir, ratatiné dans ses fringues, cisaillé par les remords, empêtré dans ses contradictions. Pour d'autres, le monde se réduisait à une décharge publique, à une rue sale, à une maison volatilisée par une bombe, à un bureau froid dans une tour, à un film dans une salle climatisée, à une chambre rafraîchie par les pales bruyantes d'un ventilateur, à une cible dans la lunette d'un viseur, à une femme blessée et abandonnée sur le trottoir, à un conciliabule avec d'autres conspirateurs,
à un camion bourré d'armes, à un hall sinistre de maison de retraite ou d'hôpital, à une pointe de seringue dans les yeux, à un couloir de la mort, à un champ labouré et survolé de mouettes, à une vague énorme sur le point de s'abattre sur la proue d'un bateau, à l'intérieur d'un char d'assaut, à un désert ocre et silencieux, à la bouche caressante d'un amant, à une rame de métro, à une assemblée fervente, à une forêt inextricable, à un ciel étoilé. En ce moment même, quelqu'un se noyait. Une femme accouchait. Un couple s'aimait. Un grabataire gémissait. Deux gamins s'arrachaient les cheveux. Un homme hurlait au milieu d'une foule. Un voyeur se masturbait. Un chirurgien opérait. Un désespéré se pendait. Une assemblée riait aux éclats. Des gens sortaient en courant de leur maison, secoués par un tremblement de terre. Un puzzle infini qu'on ne pourrait jamais reconstituer. Un kaléidoscope dont aucun être humain n'appréhendrait un jour la complexité. Quelle était sa place là-dedans? Pourquoi était-il lui et pas un autre? Est-ce qu'il pourrait vraiment un jour changer de moi? Est-ce que c'était ça, le voyage fabuleux promis par Johannes, le prix de sa trahison?
Au moins, le mec qui m'a baisé a eu des couilles, reprit Aurel avec un sourire amer. Les flics n'ont eu aucun mal à recueillir son sperme. Il en avait laissé des litres. Au fait, j'ai porté plainte. Deux toubibs ont désinfecté les plaies et m'ont pris en photo sous toutes les coutures. Humiliant, mais nécessaire. Tu sais que le viol, ça va chercher dans les 12 ans de tôle ?
Le monde se réduisait à une cellule minuscule et lugubre pour des milliers d'individus. Elle se rhabillait avec une brusquerie telle qu'un bouton de son chemisier sauta. Écoute, Aurel. Elle se figea et le fixa avec une attention soudaine.
Cyrienne aurait probablement reconquis une bonne partie de son estime en déballant la vérité, mais les mots ne venaient pas. Était-ce l'ombre de Johannes qui planait au-dessus de lui? Le sentiment qu'il n'en avait pas encore fini avec la dernière épreuve? Son penchant naturel pour la veulerie?
Non, rien. Je suis désolé pour toi. Désolé.
Elle le couvrit d'un dernier regard de mépris avant d'enfiler ses chaussures et son imper. Il se rendit compte que la contemplation de son corps, même maltraité et souillé par Johannes, avait éveillé son désir. « La vérité, je finirai par la connaître, Cyrienne, » ajouta-t-elle, la main posée sur la poignée de la porte. « Et j'espère pour toi qu'elle ne t'éclaboussera pas. En attendant, évidemment, c'est fini entre nous. »
Tenaillé par l'envie de se lever et de la rattraper dans l'escalier, il ne bougea pas, resta un long moment face à la porte entrouverte, les yeux perdus dans le vague. Le monde se réduisait en cet instant à un enchevêtrement de lignes fuyantes, à une abstraction. Il se décida à fermer la porte quand la voisine de palier, une vieille femme que sa mère logeait presque gratuitement pour soulager sa conscience de privilégié, apparut dans son champ de vision. Visage blafard, tête de gorgone, petits yeux fouineurs, doigts aux ongles recourbés, vêtements aux couleurs et aux formes indéfinissables, une parfaite hérinie.